Donc on va reprendre un petit peu la discussion de ce matin. On va rentrer maintenant dans des problèmes aussi de terminologie, histoire que vous ayez un langage commun avec les maîtres d'ouvrage et les programmistes. Donc vous avez vu ce matin qu'on parlait d'études préopérationnelles. On va rentrer maintenant dans les études opérationnelles avec deux grandes étapes dans les périodes de programmation qu'on appelle les pré-programmes, les programmes, et puis après des choses qu'on a déjà évoquées ce matin qui sont toutes les phases après la rédaction du programme. Alors, encore une fois, c'est un cours théorique, hein, après je fais des commentaires. On dit normalement que on entame les études opérationnelles que quand les études pré-opérationnelles ont été validées. Alors c'est peut-être un enfoncement de porte ouverte, mais dans la réalité, ça ne se passe pas toujours comme ça. Et en tout cas, si on le dit, c'est parce que quand ça ne se passe pas comme ça, on va très mal en général. C'est-à-dire que si on prend le risque de se lancer dans des études opérationnelles alors que des choses n'ont pas été validées avant, on risque quand même de bousculer un certain nombre d'enchaînements et de se retrouver avec des études qui vont être stoppées parce que d'un seul coup, quelqu'un aura changé d'avis ou je ne sais quoi. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que, par exemple, c'est assez dangereux de commencer à se dire « Bon, allez, tout le monde est d'accord, on fait le truc, on commence le programme » et puis d'avoir, par exemple, un maître d'ouvrage qui n'a pas validé l'estimation prévisionnelle et de dire « Bon, bah, ça interviendra pendant les études de programmation ». Oui, mais il y a une prise de risque. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais ça veut dire qu'à chaque fois, on va prendre un risque par rapport à la bonne conduite des opérations. Alors, les études opérationnelles, là, on s'adresse de plus en plus au maître d'œuvre, même si on continue de parler, bien entendu, à un maître d'ouvrage. Donc, c'est une phase de formalisation où on commence à écrire beaucoup. Il faut beaucoup de clarté parce qu'on peut à partir des études opérationnelles rentrer dans des phases un peu contractuelles. Tous les documents à partir de ce moment-là dont je vais parler, ils peuvent aussi servir à des consultations de maîtrise d'œuvre. Par exemple, les pré-programmes peuvent très bien servir de support de consultation à des maîtrises d'œuvre. On n'a pas forcément besoin, selon le niveau de complexité de la question posée, on n'a pas forcément besoin d'attendre d'avoir des programmes techniques complètement bouclés. Et puis je dirais même que de temps en temps, un pré-programme suffit largement pour consulter des maîtres d'œuvre, pour engager après des études beaucoup plus poussées. Donc là aussi, vous trouverez dans des vieux ouvrages des textes un peu formalistes et un petit peu psychorigides qui disent les études de pré-programmation, on ne les communique pas à des maîtres d'œuvre, etc. Non, les études de pré-programmation, on peut parfaitement les communiquer à des maîtres d'œuvre. Et aussi dans des procédures telles qu'on a évoquées ce matin, comme les procédures de dialogue compétitif, ça peut servir de base à un dialogue fructueux entre plusieurs équipes et un maître d'ouvrage. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on trouve dans un pré-programme? On va voir ça tout à l'heure. Ça, c'est un schéma qui résume un petit peu tout ce qu'on dit depuis ce matin, c'est-à-dire qu'à la base d'une mission de programmation, il y a une commande de la maîtrise d'ouvrage qui peut être une commande très précise, je veux un gymnase, qui peut être une commande beaucoup plus imprécise, je veux réfléchir à la lecture publique et éventuellement créer une médiathèque, où je m'interroge sur la refonte du système de réseau de lecture publique de mon territoire. Il y aura une tranche conditionnelle. Est-ce qu'on crée éventuellement une médiathèque de quartier? Est-ce qu'on restructure la médiathèque, je ne sais pas, Gérard Philippe, dans le quartier des Alouettes, etc. Donc, la commande de la maîtrise d'ouvrage, il ne faut pas croire, elle peut être déjà très formatée. C'est-à-dire qu'elle peut correspondre à un projet d'un aménagement ou elle peut avoir des variantes. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que quand on regarde un petit peu l'évolution des cahiers des charges, on s'aperçoit qu'il y a 30 ans, les maîtres d'ouvrage disaient « je veux une université, je veux une piscine ». Aujourd'hui, on a des maîtrises d'ouvrage qui traduisent cet appel au conseil et qui disent voilà, j'avais l'intention de faire un gymnase enfin, je vous le dis de façon raccourcie, mais c'est exactement comme ça. J'ai l'intention de faire un gymnase, mais je suis pas sûre que ce soit la bonne réponse. Je sais pas si je fais un gymnase associé à des pratiques sportives extérieures, je sais pas si je fais un gymnase de compétition. Aidez-moi à savoir quel type de gymnase je dois faire. On a aussi des questions, c'est-à-dire j'y vois pas clair du tout. Par exemple, j'y vois pas du tout clair. Je vous demande de me faire un livre blanc de la petite enfance. J'ai une idée derrière la tête qui est plus ou moins de rattraper le retard, mais je ne sais pas, par exemple, si je fais une crèche, si j'en fais deux, si je fais des crèches collectives, si je développe des crèches familiales, etc. Autrement dit, on est passé d'une époque où la maîtrise d'ouvrage avait des points de vue assez affirmatifs, qui est une démarche d'ailleurs aussi assez consumériste, hein, d'ailleurs j'achète une médiathèque, une opération de logement, etc., à une démarche où les maîtres d'ouvrage traduisent aujourd'hui une très très forte demande d'aide à la décision dans tous les domaines. C'est-à-dire, je veux que ce soit cohérent avec une politique publique à l'échelle communale. Je veux que ce soit cohérent, par exemple, avec le schéma départemental qui a été voté par ailleurs dans le domaine de la politique de l'enfance, etc. Je veux une politique originale en matière d'action culturelle, mais j'ai pas beaucoup d'argent. Donc je vous préviens, je veux que ce soit optimisé avec une démarche que je mène par ailleurs sur les temps des enfants, etc. J'ai entendu ici vaguement un certain nombre de personnes disent vraiment les études de programmation, c'est super, c'est intéressant, etc. Oui, c'est super, c'est intéressant, mais enfin je vous mets en garde, il faut quand même un certain nombre de capital d'expérience dans des domaines qui un jour sont la petite enfance, demain sont l'éducation prioritaire, le troisième jour sont le problème du vieillissement de la population et le quatrième jour sont les problèmes de rapport au savoir dans l'enseignement supérieur, etc. Donc ça nécessite quand même des compétences, je dirais d'abord extrêmement multiples et beaucoup dans le domaine des sciences sociales. Une fois qu'on a une commande de la maîtrise d'ouvrage, que vous voyez donc en haut, la démarche de la programmation, et c'est là que je vous avais dit, elle se rapproche de la vôtre, c'est on analyse la question posée. Donc c'est quoi son truc? C'est de définir une politique sportive. Vous avez par exemple, avant de répondre à un problème de gymnase, il va falloir savoir si il y a une politique sportive locale, est-ce qu'elle... Elle promeut plutôt la pratique fédérale et la pratique de compétition. Est-ce qu'elle est plutôt pour la pratique du sport pour tous? Est-ce qu'elle est éventuellement pour une pratique délibérément en dehors des espaces sportifs? Ce qui est par exemple une problématique pour un certain nombre de pratiquants et de pratiquantes. Hein. Et on a par exemple, bon, je vous donne cet exemple, mais on sous-estime beaucoup la pratique sportive féminine au prétexte que un certain nombre de femmes ne sont pas inscrites dans des fédérations de sport, etc. Mais si vous allez rechercher dans une commune où est-ce qu'on fait de la gym douce, où est-ce qu'on fait de la gym d'entretien, etc., et que vous allez dans les maisons de quartier ou les centres sociaux, vous allez vous apercevoir que vous avez une très très forte pratique féminine selon aussi les cultures, les communautés, etc. Donc de temps en temps, vous avez un maire qui vous dit « chez moi, par exemple, les femmes font pas assez de sport ». Il a raison s'il regarde les équipements sportifs, mais peut-être que ce qu'il oublie, c'est qu'il y a beaucoup de sport qui se fait délibérément, et je dirais de façon assumée, dans des équipements qui ne sont pas dans des équipements sportifs. Donc pour dénouer tout ça, il faut quand même un petit peu de sens à la fois de l'observation, d'histoire des politiques publiques, et puis surtout de possibilité de croiser des observations de comportements, de statistiques, de données, etc. On en a peu parlé ce matin. Enfin, la programmation, c'est pas que de se réunir l'après-midi avec des usagers, c'est aussi nourrir une stratégie à partir d'indicateurs statistiques, d'indicateurs comportementaux, d'analyses quelquefois qu'il faut faire, hein, c'est-à-dire qu'il faut faire quelquefois des enquêtes, il faut croiser des données. Et puis, je pense que dans l'avenir, il faudra de plus en plus exploiter des données géolocalisées qui seront de plus en plus, à mon avis, en open source et qui seront beaucoup plus riches que les données de l'INSEE. Après cette analyse de la question posée, on a généralement trois phases importantes, ce que j'évoquais, c'est-à-dire on collecte, on observe, on réunit des données, alors qui peuvent être là aussi multiscalaires, hein, des études, on a toujours besoin de se comparer aussi, c'est-à-dire que quand on intervient sur un territoire, on a besoin de savoir si on est en avance, si on est en retard, comment on se compare par rapport à d'autres territoires comparables ou pas du tout comparables. On a une phase de programmation qui est très classique, qui est l'appréciation des besoins, c'est-à-dire est-ce que les gens qui prétendent avoir absolument besoin de 4 terrains de foot, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de 4 terrains de foot? Est-ce que c'est parce qu'il y a 4 clubs qui sont plus ou moins tous en lutte? Ou est-ce qu'on pourrait passer à 2 clubs de foot? Est-ce que c'est bien raisonnable d'avoir 4 clubs de foot sur une commune? Peut-être d'ailleurs qu'aucun n'est en compétition. Voilà, donc il y a tout ce problème des appréciations des besoins. Si je reviens à l'école centrale, bah, l'appréciation des besoins, c'était de se dire, vu le nombre d'heures de salles de travaux dirigés qu'ils me demandent, il y a peut-être un problème dans les années futures. Pourquoi il y a si peu d'espace de projet, pourquoi il y a si peu d'espace pour faire du prototypage industriel, etc. Il y a une phase aussi de diagnostic. Alors le diagnostic, ça peut être un diagnostic de bâtiment, mais ça peut être aussi un diagnostic sur un champ entier de l'action politique, c'est-à-dire faire le diagnostic dans une commune ou sur un territoire, des organismes de formation, de l'offre en matière d'équipements sociaux, de l'offre en matière muséale. On peut avoir, par exemple, nous on fait beaucoup de programmation culturelle et touristique, dans laquelle la question qui va se poser, ça peut être de faire un diagnostic des musées, qui peuvent par exemple être des musées privés, qui n'ont pas de conservateurs agréés, qui n'ont pas de politique de collection reconnue par l'État, etc. On a fait ces dernières années, on a créé de toutes pièces un musée qui est le musée Bonnard, à partir d'une très très faible collection de Bonnard dans le Midi, et on a monté tout le projet culturel avec le ministère de la Culture, et on a créé une stratégie pour que des donateurs nous donnent des œuvres, et en fait pour constituer une collection. C'est-à-dire qu'on a un peu créé le concept du musée avant d'avoir la légitimité en termes de collection, ce qui supposait une politique de communication assez importante. Mais si on l'a fait, c'est parce qu'on savait qu'un certain nombre de collectionneurs privés étaient susceptibles de nous donner des collections. Autrement dit, la pertinence de la stratégie, on l'avait un peu assise, et elle avait été validée par le ministère de la Culture. C'est l'exemple inverse du musée de Soulages. À Soulages, on fait un musée... Enfin, pas à Soulages. Excusez-moi. Oui, on fait le musée parce que maintenant, bon voilà, on est sur une valeur sûre, etc. Tout. Nous, pour le musée Bonnard, c'est l'inverse. On avait le lieu qui est fortement identitaire puisqu'il y avait vécu, il avait sa maison et qu'il y avait peint, mais on n'avait pas un poil de collection. Et donc, c'était le projet du musée qui était censé faire sortir les collections de chez les collectionneurs. On a réussi. Après, quand on a collecté les données, qu'on a une idée à peu près des besoins, qu'on a bien fait le diagnostic, on est dans ce qu'on a appelé ici le bilan et les scénarios. C'est-à-dire qu'à partir de tout ce matériau qu'on met dans une machine à laver, on commence à sortir un certain nombre de scénarios. Alors, il y a des scénarios qui sont dans du dur, qui sont incarnés dans les trois dimensions, mais il y a des scénarios qui sont des stratégies de communication, des stratégies de préfiguration, des stratégies de positionnement d'un territoire, par exemple, par rapport à une question posée. Encore une fois, sur Gravelines, si on est mauvais depuis 11 ans, c'est parce qu'on a eu une concurrence d'équipements, une concurrence d'offres avec des maires qui étaient beaucoup plus communicants que le maire de Gravelines, dont l'ancien maire de Dunkerque, et qui, pendant un certain temps, nous ont ravi en fait le principe d'une salle dans laquelle pouvaient s'entraîner les clubs. Bon, aujourd'hui, ce projet, il est abandonné faute de crédit, et il y a à nouveau une fenêtre de tir pour la mairie de Gravelines. Sauf que, voilà, ça reste entre nous, je ne suis pas sûre qu'on ait un maire qui soit dans la capacité d'avoir cette stratégie d'opportunité extrêmement proactive. Donc on fait ces scénarios, généralement il y a des périodes de validation, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un scénario qui va être plus séducteur qu'un autre. Quand je dis séducteur, c'est pas en termes commercial, c'est qu'il y aura peut-être quelqu'un qui dit voilà, moi je sens que je peux porter ce truc là hein, ça a été le cas pour le musée Bonnard, et puis après on va passer et on rentre là effectivement dans du pré-opérationnel, c'est-à-dire la limite elle est là hein, parce qu'encore une fois à partir de là on peut tout ranger, on peut dire j'attends, c'est pas pour tout de suite, un petit peu plus tard les gars, ou je fais pas, ou c'était trop, voilà, je me suis pas sentie en mesure de porter tout ça. Si on passe cette étape et que là il y a une structure de validation qui dit on y va, alors là on rentre effectivement dans la phase opérationnelle. Voilà, la limite du pré-opérationnel, elle est là. Alors, quand on passe au pré-opérationnel, on se dit, ça y est, maintenant, le musée Bonnard, on commence à réfléchir. Bon, on avait une petite idée de sa superficie possible et de son budget. Et là, on va commencer à faire un pré-programme comme si qu'on avait des collections du musée Bonnard. Voilà. Et puis, on va tester la faisabilité, parce que là, en l'occurrence, on a une ancienne maison et des fortes contraintes, des contraintes de paysage aussi, très, très fortes. Et puis, il y aura une prise de décision pour savoir, encore une fois, stop ou encore. Hein, c'est-à-dire, on peut aussi s'arrêter là. Et puis si on continue, alors là maintenant on déroule un tapis très opérationnel, c'est-à-dire qu'on va mobiliser les partenaires, on va répartir, on va faire un tour de table pour savoir qui paye quoi, on va savoir qui lance le concours, parce que celui qui porte un projet, pas toujours celui qui porte le concours au final, ça peut être une collectivité qui est supérieure ou qui a plus d'ingénierie ou qui va repasser ça à une SPL ou des choses comme ça. Et puis après, on est carrément, alors là, dans une logique après qui est sans retour. Hein, c'est-à-dire, à partir de là, on ne revient jamais en arrière. C'est-à-dire, après, on est condamné à faire le programme. Et quand on a fait le programme et qu'on a ces paquets de prescriptions techniques, on est généralement dans une obligation de lancer un concours. Ou alors, c'est que vraiment, on est très, très mauvais, qu'on fout l'argent par les fenêtres. Donc, à partir de là, on va lancer un concours où... Encore une fois, il y a des solutions un petit peu différentes, comme les dialogues compétitifs. Et puis, on va rentrer ici dans une période où maintenant, on est vraiment dans la problématique de quel est l'architecte que je prends, quel est le meilleur projet. Et puis, comme on le disait ce matin, on va rentrer dans une période d'adéquation programme-projet, c'est-à-dire que là, le programmiste, il commence à regarder dans quelle mesure il y a la meilleure adéquation possible entre son programme et projet. Si ce n'est pas le cas, il va essayer d'améliorer le projet retenu. Et puis après, on va passer à une phase à la réalisation. Et c'est là que ce qu'on évoquait ce matin, c'est-à-dire que normalement, le programmiste, il sort. Alors, soit il sort définitivement, soit il continue encore pour assurer un espèce de continuum pendant une période... variable selon l'importance et la complexité du projet, qui peut aller jusqu'à ce qu'on a évoqué ce matin, c'est-à-dire de prendre des programmistes en AMO jusqu'à la livraison du bâtiment. Voilà. Donc voilà pour ce qui est du schéma théorique idéal type. Alors, entre maître d'ouvrage et maître d'œuvre se lisent aussi un certain nombre d'exigences à travers le programme. C'est-à-dire que c'est dans le programme... on va trouver la meilleure répartition de qui est responsable de quoi. Le maître d'ouvrage, dans un pré-programme et dans un programme, il a la responsabilité des contenus. C'est-à-dire, c'est lui qui dit, par exemple, si c'est un musée d'art contemporain ou si c'est une salle d'exposition d'art contemporain, ce qui n'a rien à voir. Donc, dans un cas, il y a des collections. Dans un autre cas, on fait venir des collections et on est uniquement sur des expositions éphémères. Ça ne relève pas d'un choix, vous le comprenez, de la maîtrise d'œuvre. Ça relève d'un choix de maître d'ouvrage qui dit, voilà, j'ai de même que dans un musée d'art contemporain, il peut avoir 80% d'expositions permanentes et 20% d'expositions temporaires. Il peut avoir 50% d'expositions permanentes et 50% d'expositions temporaires. Ce sont des politiques artistiques et des politiques publiques culturelles qui relèvent de la maîtrise d'ouvrage. C'est lui qui va définir l'importance relative et le niveau d'ambition. Est-ce qu'il veut le Louvre à Valence ou est-ce qu'il est sur un petit musée, je dirais, sans prétention de proximité, qui va surtout s'intéresser à la révélation de l'histoire locale, mais aussi peut-être à des classes de pratiques amateurs. C'est lui qui va définir les orientations fonctionnelles, c'est-à-dire c'est quand même un maître d'ouvrage s'il fait un musée, pour reprenons cet exemple, de lui dire est-ce qu'on a beaucoup de réserves ou est-ce qu'on n'a pas beaucoup de réserves, est-ce que les réserves sont visitables ou est-ce qu'elles ne le sont pas. C'est lui qui dira comment on accueille le public, est-ce qu'on accueille le public avec un café, avec un guichet, pas de guichet, est-ce qu'on développe une boutique de musée ou pas. Donc là-dessus, toutes ces choses relèvent absolument de la maîtrise d'ouvrage, et si encore une fois vous êtes devant une page blanche, vous êtes en droit de dire que cette page est trop blanche et qu'effectivement vous prendriez des risques à la remplir. Il relève de la maîtrise d'ouvrage de vous informer aussi à travers le programme sur les logiques de flux, c'est-à-dire dans ce bâtiment on compte accueillir combien de personnes simultanément, est-ce qu'il y a des grandes périodes très différentes selon les saisons, par exemple est-ce qu'on est sur un musée touristique, auquel cas on aura beaucoup de mal à accueillir les flux au mois d'août, mais en décembre, janvier, on pourrait peut-être fermer 3 salles. C'est dans le programme que vous allez trouver toutes les informations concernant le phasage, la montée en charge éventuelle du bâtiment, avec de plus en plus dans les programmes aujourd'hui des phases de préfiguration ou de simulation de fonctionnement d'équipement, qui peuvent être des fonctionnements sur le site ou des préfigurations ailleurs que sur le site. C'est là-dedans que vous allez trouver des informations sur les modes de gestion Et enfin, sur les coûts. Et les coûts avec toujours deux grandes différences, c'est-à-dire les coûts d'investissement, mais aussi les coûts de fonctionnement. Il faut bien que vous soyez vigilant aussi, quand vous voyez certains projets, de vérifier que le maître d'ouvrage, non seulement à l'enveloppe, mais on dit souvent, et ça reste vrai, que le plus difficile, à la limite, c'est pas de décocher l'enveloppe, c'est de faire fonctionner l'équipement après. Actuellement, en France, les collectivités qui ont quand même des économies encore importantes à faire ne se lancent pas dans certains projets, non pas parce qu'elles ne pourraient pas le financer, mais parce qu'elles seront surtout dans la capacité de le faire fonctionner. Hein. On pense aux piscines, on pense à la lecture publique, on pense aux conservatoires, où on a actuellement des demandes de conservatoires qui ne seront jamais satisfaites, parce que à la limite, on pourrait agrandir le conservatoire, mais on sera dans la capacité de mettre des professeurs en face les élèves. Alors, le pré-programme est un document très très important qui est soumis à validation et qui va engager le maître d'ouvrage, parce que c'est encore le dernier moment où il peut dire stop. Et c'est dans le pré-programme qu'on définit un certain nombre de choix programmatiques. Si je reprends le théâtre de la Maison de la Culture de Grenoble tout à l'heure, c'est bien au stade du pré-programme qu'il fallait décider si on gardait le théâtre mobile ou pas. Alors, généralement, quand le pré-programme est validé, je dirais on ne fait plus que dérouler du tapis. C'est-à-dire le programme n'est que le détail et la déclinaison beaucoup plus fine du pré-programme. Mais il est rare, et je dirais même qu'il est anormal, qu'à l'occasion d'un programme, on réintroduise des éléments qui n'avaient pas été validés dans le pré-programme. On ne va pas, par exemple, passer d'un pré-programme d'une salle de concert à un programme détaillé d'une salle de musique actuelle. Il y a un truc. Hein. Entre les deux, c'est pas possible. Parce que là, c'est une différence énorme. Donc le pré-programme, c'est la programmation la plus politique, en fait, par rapport à ce qu'on a vu ce matin. Et c'est le document qui doit permettre à des financeurs de dire j'y vais pas. On n'a pas le pré-programme est vraiment l'outil privilégié d'aide à la décision des maîtres d'ouvrage. On n'a pas besoin d'encombrer un maire pour lui dire qu'on se pose la question du sol sur l'embourde pour la salle de danse. Ça, il n'en a rien à foutre. Hein. Si ça l'intéresse, on lui expliquera pourquoi on a forcément un sol sur l'embourde pour la pratique de la danse. Mais par contre, si on a besoin de son aval, c'est pour savoir si on se lance, bien entendu, dans un équipement de spectacle vivant. Est-ce qu'on a vraiment une salle de danse spécialisée ? C'est une problématique qu'on a eue sur le carreau du temple. On peut faire de la danse dans des lieux plus ou moins polyvalents, mais il y a un moment, c'est un choix de dire je me dote d'une salle de danse qui va correspondre à des performances de hauteur, de sol, d'équipement mobilier, de configuration, etc. Donc là, on ne peut pas dire à un maire, bon, vous, globalement, vous aviez validé la danse, hein, non, il faut lui dire, il y aura ou il n'y aura pas une salle de danse et quelles sont les différentes alternatives possibles. Parce qu'une vraie salle de danse, ça peut coûter très cher. Alors, dans un pré-programme, vous avez les investissements, les budgets prévisionnels de fonctionnement. Ça peut aller très, très loin. C'est-à-dire que là aussi, il y a des choses sur lesquelles nous, on travaille que vous ne verrez jamais. C'est-à-dire qu'avant qu'on ait validé le programme sur lequel vous allez travailler, on aura, nous, fait un travail très, très fin sur les budgets prévisionnels de fonctionnement, les modèles économiques et de plus en plus des simulations de charges comme les charges fixes, les consommations d'énergie. Alors, c'est vrai que dans les équipements publics, le poste le plus lourd, c'est celui des charges de personnel, hein, puisque ça peut varier de 60 à 90% dans le fonctionnement des équipements publics. Et puis après, on peut avoir des budgets spécifiques. Par exemple, dans le domaine muséal, on peut avoir des renouvellements de collections, des budgets de communication qui sont très très importants, et le pire c'est les parcs d'attractions où là on doit avoir tous les ans à peu près un quart du budget initial qui est remis dans l'actualisation des offres ludiques. On trouve dans un pré-programme l'impact local en termes économiques, c'est-à-dire est-ce qu'on va créer de l'emploi, mais pire que ça, il y a aussi les impacts en termes négatifs, c'est-à-dire qu'on a des projets qui en fait sont négatifs dans la mesure où ils vont condamner une autre offre. Hein. C'est-à-dire que, et même dans les équipements publics, il ne faut pas croire qu'il n'y a que dans le domaine privé que les équipements se font, enfin que l'offre de services est concurrentielle. Même dans le domaine public, si vous prenez le domaine du spectacle vivant, on a beau être public de chez public, on est dans une logique concurrentielle. Si vous avez trop de salles de spectacle dans un secteur, vous allez bousculer toute l'économie du spectacle vivant. Nous, on est sur une étude dans le sud-ouest, enfin dans l'ouest, depuis trop longtemps aussi, sur un projet de réutilisation d'un ancien séminaire. Et depuis le temps où on a commencé les études, il y avait une salle de spectacle. Eh bien, au jour d'aujourd'hui, cette salle de spectacle a totalement disparu d'elle-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand bien même on aurait l'aval de l'affaire, elle ne correspond plus au modèle économique de la région. C'est-à-dire qu'il y a eu des créations de salles de spectacle. Elles ont pris le marché, entre guillemets. On est sur un secteur géographique où les gens bougent facilement, avec des distances inférieures à 5 km. Donc même maintenant, cette idée de salle de spectacle, elle s'est détruite d'elle-même. Parce qu'entre-temps, pendant que nous, on tardait sur les études, eh bien, les autres collectivités ont créé, ont mis sur le marché des offres de salles de spectacle. Donc la salle de spectacle a disparu d'elle-même. Voilà. Et pourtant, c'est sur un modèle de salle publique. Alors, la première vertu d'un pré-programme, c'est d'être un document de communication. C'est-à-dire qu'on a... Il doit être lu très rapidement, il doit pouvoir être exposé de façon très très simple pour être validé par des gens qui, quelquefois, ont quelques minutes pour décider. Il doit comporter des chiffres, surtout des chiffres. Et puis, alors surtout, ça peut servir aussi à engager ce qu'on a évoqué. C'est-à-dire que c'est sur la base d'un pré-programme qu'on peut engager, par exemple, une concertation plus ou moins institutionnelle. Vous ne pouvez pas vous lancer dans un quartier avec un débat sur l'école sans que vous ayez dit est-ce que la ville se lance dans la création d'une école ou pas. Hein. On a eu un petit peu quand même ce problème à Danton où, du point de vue de la mairie, la question était claire. Il n'y avait pas de création de nouvelle école. Bah, dès les premières réunions, la question est devenue de moins en moins claire. Hein. Et au fur et à mesure que le nombre de logements était affiché, on entendait des choses assez sensées sur la difficulté du patrimoine scolaire à absorber les nouveaux besoins. Donc, pendant un moment, on a arrêté la concertation pour faire le point sur la démographie scolaire, et la ville a failli un petit peu changer d'attitude. Entre-temps, elle avait projeté un équipement qu'elle a été obligée de faire plus rapidement pour continuer de communiquer en disant qu'il n'y aurait pas d'école neuve sur le quartier Danton. Donc le pré-programme sert aussi, généralement, est un document support qui sert à engager la concertation institutionnelle. Alors je vais vous montrer des exemples de réflexion au stade d'un pré-programme. Ben, je ne les ai plus. On les aura tout à l'heure. Parce que généralement il y avait une liste ça viendra tout à l'heure. Alors j'insiste, je reprends la slide d'avant. Tout d'abord, il y a des questions qui doivent être résolues au stade du pré-programme. J'ai dit du pré-programme pour une raison bien simple, c'est que si vous ne les faites pas au stade du pré-programme, vous risquez de demander au maître d'œuvre de le faire à votre place. Or, ce n'est pas à un maître d'œuvre de faire des choix qui incombent à un maître d'ouvrage. Alors, sur l'architecture, oui, mais sur une politique publique, non. Alors, je vais vous montrer, je crois qu'ils sont après des exemples. Bon, ça, on peut passer. De toute façon, je vois que vous prenez des notes, mais vous embêtez pas, vous aurez ce support. Hein. Vous n'allez pas prendre des notes. Alors, petit détail aussi, on nous demande souvent à quoi ça ressemble un programme. Et bah, à tout et à rien. C'est-à-dire, un programme d'école ne ressemble pas à un programme de CHU, et un programme de CHU à Grenoble ne ressemble pas au programme de CHU de Créteil. Il y a des invariants Dans les invariants, il y a l'approche quantitative. J'en parle peu parce que c'est ce qui est le plus pénible en programmation et qui, quelquefois, devient la substantifique moelle alors que c'est absolument pas l'objet. La quantification du programme, c'est une boîte à outils comme on va à Bricorama chercher des chevilles, sans qu'on a du béton ou pas du béton. Mais je veux dire, on n'achète pas des chevilles pour acheter des chevilles, quoi. On achète des chevilles parce qu'on veut poser une étagère, etc. Donc, confondons pas les objectifs et les moyens. Si on quantifie les programmes, c'est au service d'un objectif. Et c'est pour ça que je vous parle toujours très, très tardivement de la quantification du programme. Mais néanmoins, il y a un moment où il faut à peu près savoir de quoi on parle. Alors, pour quantifier et pour faire de la programmation, entre guillemets, quantitative, je suis désolée de vous décevoir, mais il n'y a pas de méthode. Hein. Il n'y a pas de méthode ni de normes. Et il y en aura de moins en moins en France parce qu'on intervient sur du déjà-là. Et qu'il n'y a pratiquement plus aucun ratio qui est pertinent aujourd'hui à appliquer. Les seuls ratios qu'on applique, c'est des ratios par rapport à des objectifs de politique publique. C'est-à-dire, quand on dit qu'une commune est très en retard en lecture publique, ça veut dire qu'elle a moins de temps de mètre carré par habitant en lecture publique. Voilà. Une fois qu'on sait ça, on ne va pas programmer une médiathèque en disant « je multiplie un nombre d'habitants par un nombre de mètres carrés ». Ça n'a absolument aucun intérêt. On peut avoir une médiathèque qui soit surdimensionnée parce qu'elle va se retrouver à une frange, je dirais, d'interface entre deux territoires de bassin de vie. On peut avoir une médiathèque qui soit limitée à un guichet numérique, pourquoi pas, mais qui aura peut-être une très très grande attractivité sur le plan des données. On peut avoir une médiathèque qui soit très spacieuse parce qu'elle va développer des politiques de lecture et d'animation avec les enfants ou avec des publics empêchés, mais... Même aujourd'hui, dans ce domaine, on ne cherche pas à dire « il faut que la bibliothèque fasse tant de mètres carrés ». Alors, il y a des domaines qui sont incontournables, bien entendu. C'est les équipements normés. Les équipements normés, c'est tout ce qui est lié à la compétition et à la normalisation, c'est-à-dire une salle des congrès, si elle fait tant de places, il y a un nombre de mètres carrés par place dans une salle de congrès pour ne pas se gourer à peu près sur la taille de la salle. Mais en dehors de ça, les seules références quantitatives imposées, c'est celles du sport généralement et du sport de compétition. C'est-à-dire, à bassin de nage olympique, ça ne se négocie pas au coin du café du coin. Hein. C'est une norme, elle est internationale, c'est comme les normes de la FIFA pour les stades. C'est peut-être pour ça qu'ils sont beaucoup à s'en occuper, d'ailleurs, je pense. Alors, il y a une autre approche. Alors, vous allez me dire, vous n'avez pas répondu à la question, comment vous faites pour l'approche quantitative? Eh bien, c'est une méthode générique, c'est-à-dire qu'on regarde quelles sont les pratiques qu'on est censé accueillir dans des espaces et on essaye, par comparaison et par observation, de la calculer la plus objectivement possible. Alors, ça suppose des points de vue prospectifs, ça suppose d'avoir des contre-points de vue de temps en temps. Hein, c'est-à-dire qu'on peut avoir quelqu'un qui nous dit « il me faut absolument ça », puis curieusement, on va voir un de ses collègues à 300 km, il nous dit « mais pas du tout, moi je me débrouille très bien avec ça ». Donc, la programmation quantitative, c'est là généralement qu'on attend les programmistes en tant qu'experts. C'est des gens qui doivent quand même être un peu assez rusés et expérimentés pour, un, ne pas se laisser influencer quand on leur dit « voilà, j'ai besoin de 400 mètres carrés ». Moi, ma position a toujours été de dire « je veux bien, mais il faut d'abord me le prouver ». C'est-à-dire que je vois pas pourquoi, parce que vous me dites que vous avez besoin de 400 mètres carrés, je dirais qu'il faut 400 mètres carrés. Donc, prouvez-moi qu'il vous faut 400 mètres carrés. C'est là que ça commence généralement à être assez intéressant, parce que si ça se trouve, même la personne en a besoin de 418 et pas de 400 ou 450. Ne comptez pas sur moi pour vous dire qu'on peut s'en sortir autrement. La programmation spatiale quantitative ne peut résulter que d'une analyse des pratiques, des contenus et des fonctions qui sont attribuées aux espaces. Et ça, c'est du travail sur mesure, même si après, bien entendu, on sait tous en France que voilà, une salle de classe, normalement, fait tant de mètres carrés sur tant de mètres carrés. Mais comme c'est absolument pas ce qu'il faut faire pour former les enfants demain, le mieux, c'est de s'en passer et d'essayer plutôt de réfléchir sur les typologies de lieux qu'il faudra pour les enfants demain. Et les références, elles sont pas en France, elles sont dans les pays nordiques. Voilà. Il y a une autre méthode de programmation qu'on appelle l'approche organisationnelle. C'est-à-dire que la programmation, elle peut être quantitativement satisfaisante, mais devenir un enfer pour les utilisateurs, pour une raison simple, c'est qu'on n'a pas besoin que d'un espace de 50 mètres carrés. C'est que l'espace de 50 mètres carrés, s'il n'est pas accessible, s'il n'est pas agréable, s'il est contraignant ou s'il fait 40 degrés, les 50 mètres carrés ne sont pas suffisants. Donc l'approche organisationnelle, c'est une approche qui permet d'enrichir, d'augmenter, je dirais, l'approche quantitative par des adjonctions de fonctionnalités, de principes d'organisation, de principes d'ergonomie qui vont faire que le même espace de 50 mètres carrés va être déserté dans un cas et approprié par l'autre. J'ai pas assez d'images ici, mais je prends souvent cet exemple d'une salle à Massy-Palaiseau, à la gare de Massy, que je trouve très intéressante. Vous avez deux salles d'attente à la gare de Massy. Vous avez celle du rez-de-chaussée, vous avez celle du premier. Et généralement, c'est très simple, la photo, surtout qu'il y a une mezzanine, donc vous pouvez faire le même exercice que moi. Au premier étage, vous avez une salle qui est absolument déserte. Et même pendant les périodes de vacances, etc., vous avez une salle en bas qui est archi-pleine. Bon, cherchez l'erreur. Il n'y en a pas, je veux dire, déjà spontanément, comportementalement, une personne qui est en voyage et qui a des valises, des enfants, des machins, ne va pas chercher une salle, à moins d'être un peu, je dirais, déformée, naturellement, ne va pas essayer de monter, hein, même si on lui met des ascenseurs, des machins, et en l'occurrence, il n'y en a pas beaucoup, il y a un vague escalator dans cette gare. Le deuxième, c'est que cette salle, elle n'est pas visible. C'est-à-dire, il faut être comme moi, un peu déformé pour la connaître, parce qu'en fait, du rez-de-chaussée, on ne la voit pas. Donc, troisième bonne raison, il n'y a aucune raison d'y aller. Et puis, la dernière raison, c'est qu'elle est triste à mourir, qu'il n'y a pas des points de vue intéressants, etc. Donc, les gens la découvrent quand ils vont aux chiottes. Voilà, parce que là aussi, bonne idée, comme ce sont les surfaces les moins chères, ils ont mis les chiottes en haut, ce qui est très pratique, là aussi, pour des personnes âgées, des personnes avec des valises et des personnes avec des enfants. Donc, en dehors de cette découverte accidentelle, personne n'ira jamais dans la seconde salle d'embarquement de la gare TGV. Alors, j'en ai discuté d'ailleurs avec les agents qui me disent « Mais on ne comprend pas, ils s'agglutinent tous. » Bah oui, ils sont normaux. Donc, tant que la SNCF n'aura pas fait une analyse sur la valeur de cette salle au premier étage, je ne pense pas qu'il va se passer grand-chose. Des phénomènes comme ça, on en a plein. Donc, si ça se trouve, il n'y a pas une erreur de programmation quantitative, elle est très bien dimensionnée, et je pense que si on avait les deux salles, on n'aurait même pas, pendant les périodes de pointe, de problème. Mais comme cette salle ne sert à rien, je dirais, à la limite, demain, on peut même la fermer, elle ne servira jamais telle qu'elle est, de salles d'embarquement secondaires, même secondaires, il faudrait vraiment obliger les gens à y aller pour qu'elles puissent servir. Donc, résultat, on a une salle d'attente qui a bien la taille, mais comme elle n'est absolument pas pratique, elle n'est pas attractive et elle n'a aucun confort, il n'y a aucune raison d'y aller. Donc voilà un exemple pour vous montrer que voilà, une stricte approche quantitative est forcément très très limitée. Alors si on est sur du besoin, par exemple si c'était du stockage, on pourrait dire voilà, on a programmé du stockage en haut, du stockage en bas, et ben les gars, quand ça pète en bas, ben, vous êtes obligés, vous allez stocker en haut. Oui, parce que ça on peut l'imposer à du personnel. Mais à du public, on ne peut pas l'imposer et dire écoutez, voilà, vous êtes tous ici à attendre le train, montez donc là-haut. Non, non. Les gens ne monteront pas là-haut. Alors, pour faire ça, les programmistes sont passés maîtres dans l'art de faire des schémas fonctionnels très, très colorés, qui ne servent pas forcément à grand-chose, où ils s'amusent beaucoup à mettre des bulles l'une à côté de l'autre en disant quand on vous a mis une bulle l'une à côté de l'autre, c'est qu'il faut que vous soyez l'une à côté de l'autre. Donc, je pense que on va peut-être passer un peu rapidement là-dessus, parce qu'à mon avis, ça ne sert pas à grand-chose. Mais je vais vous montrer des exemples. Alors, ça, c'est, si vous voulez, le principe du schéma fonctionnel, c'est quand il faut dire à un architecte que deux personnes sont censées partager un bureau avec deux bulles, je pense qu'on peut faire l'économie du dessin. Là où ça devient intéressant, c'est quand on est au stade d'un pré-programme. Donc ça, c'est un programme qui verra jamais le jour, qui a été annulé par une succession de maires. Donc le nouveau maire d'Angers a abandonné ce projet, qui était un projet de faire un nouveau palais des congrès à Angers et d'y associer une salle symphonique et un hôtel. Alors pourquoi là on a eu besoin d'un schéma organique? C'est parce qu'à ce stade, on est sur un site qui est vierge, qu'on n'a pas de contraintes de bâtiment existant, et là on illustre un concept de fonctionnement. Donc on n'est pas à dire que monsieur machin doit être à côté de madame truc, on est en train d'illustrer plusieurs choses. Le principe, c'est déjà d'illustrer que l'hôtel ne va pas être simplement en mur mitoyen, mais que l'hôtel assure à travers le hall d'accueil était censé accueillir et gérer le lobby de toutes les fonctions, palais des congrès, hôtel et auditorium. L'utilité de ce schéma, c'était aussi de tester avec des futurs utilisateurs s'il leur paraissait pouvoir gérer un tel principe, c'est-à-dire de ne pas avoir un accueil pour l'auditorium, un accueil pour le palais des congrès, un accueil pour l'hôtel. Et bien entendu, c'était de le tester auprès de partenaires hôteliers pour savoir si ça les intéressait, parce que ça a quand même certaines contraintes, ça a des avantages énormes, mais de gérer un lobby dans lequel d'un seul coup pouvaient arriver 1300 personnes pour aller au concert. Voilà. Ce schéma, il a pour but, s'il avait été définitivement validé, il l'était par l'ancien maire, puisqu'on a lancé le concours et on avait deux équipes retenues. Ce schéma, il sert également à montrer les parties qui sont forcément partagées et qui servent à introduire après une répartition entre l'auditorium, la salle de congrès et un pôle de restauration qui était un grand pôle de restauration à caractère festif qui pouvait être utilisé en dehors des congrès le samedi et le dimanche par les populations d'Angers, sachant qu'on est au bord de la Maine et qu'on a tout un travail avec François Gréter ici depuis des années de réappropriation des berges de la Maine. Donc ce type de schéma, il ne sert pas à préfigurer un schéma architectural, il sert à mettre un petit peu en image des principes de fonctionnement, un certain concept de palais des congrès, à tester des modes de fonctionnement avec des maîtrises d'ouvrage réparties, ici public et privé, puisque dans le montage, l'hôtel était un investisseur du projet, et donc les architectes devaient avoir dans leur équipe un hôtelier. Et puis il nous sert aussi à tester en termes programmatiques, fonctionnels, etc., si on n'a pas oublié aussi des problèmes qu'on va rencontrer, comme par exemple ici les liens entre les problématiques d'accès extérieur pour la logistique, sachant que ici il va falloir intervenir jusque-là, que là on a des accès spécifiques. Donc quand vous mettez ça en perspective, par exemple avec un site un peu contraint, on commence à se dire, tiens, là par exemple trois accès logistiques, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible. Voilà. Donc feu ce projet, Saumur, maison de l'enfance, on avait parlé je crois avec vous ou avec certains d'entre vous de la très grande difficulté que représentent en fait les équipements de petite enfance, parce que d'une part on a des répartitions par âge, par activité et par rythme, c'est-à-dire que les rythmes des tout-petits qui sont quand même à 50% sommeil, vie, sont pas du tout les mêmes que ceux des derniers classes d'âge qu'on accueille et qui sont cette fois sur des temporalités deux tiers vie, un tiers sommeil, etc. Donc les équipements de petite enfance sont assez complexes. Ça c'est un exemple de schéma organique d'une des derniers pôles de petite enfance qu'on avait fait. Et ici c'est le fameux lieu dont je vous ai parlé qu'on a fait donc sans les utilisateurs récalcitrants, et c'est un principe qu'on avait appelé le bâtiment XXL qui a été livré aujourd'hui, qui a été d'ailleurs totalement dans cette logique. Donc ici il s'agit de regrouper tous les gens du ministère de l'équipement, les services techniques rattachés à l'école des ponts, avec une spécificité qu'il faut qu'ils soient tous dans le même bâtiment, alors que certains sont des laboratoires, certains sont des espaces tertiaires, certains sont des espaces de logistique. Et donc on avait voulu illustrer ce concept de bâtiment à travers ce schéma qui traduit plusieurs choses. Premièrement le fait qu'on met tout le monde dans la même enveloppe, mais qu'on a des typologies différentes selon plusieurs échelles. Une échelle de contrôle des entrées et des personnes progressives, c'est-à-dire qu'on met ici tous les gens qui n'ont aucun contrôle d'accès. Et à partir de là, on peut imaginer des contrôles d'accès pour des gens qui travaillent dans des parties plus confidentielles. Et ici, on est dans le contrôle d'accès absolu, puisqu'on travaille avec les plus grands groupes du privé sur des sujets de recherche confidentielle. Donc ici, on a un problème à la fois d'espace servant qui nous permet loger tous les laboratoires, de garantir le contrôle d'accès, d'avoir d'un point de vue théorique bien sûr, hein, synthétique, une desserte optimisée pour tout le monde, et puis de retrouver ici des métiers, c'est-à-dire que tout le travail qu'on a fait c'était d'essayer d'assembler les gens par métier à peu près convergent. Voilà. Donc par exemple, je prends cet exemple, quand vous arrivez ici, les gens qu'on a mis là, du laboratoire des ponts, ils sont plutôt en affinité avec ceci, même si c'est sur de la verticalité, et ils ont des relations préférentielles avec ces deux labos-là et pas avec ceux-là. Donc ça nous a permis de guider un peu l'organisation à laquelle l'architecte devra lui trouver la mise en forme finale. Mais ce schéma traduit un principe, un bâtiment unique, un bâtiment XXL et des typologies qui vont nous permettre de baisser les coûts aussi. C'est-à-dire que notre idée, c'était d'avoir ici à peu près les mêmes typologies d'espace, ici des typologies plus sophistiquées, et puis ici des typologies industrielles. Aujourd'hui, ce bâtiment, il existe à Marne-la-Vallée et il est calé sur cette stratégie immobilière. Voilà. Bon, ça, c'est des exemples de schémas pour vous montrer le travail, quand vous disiez vous travaillez comment. Donc, effectivement, on a peu travaillé avec les gens, mais par contre, on a beaucoup travaillé avec le ministère pour lui montrer les différents scénarios possibles de regroupement des services. Donc, en gros, on avait un scénario où on met les gens à côté des autres. Et on a des scénarios avec des exemples. Hein. Et on avait des scénarios où on voulait montrer au ministère qu'on pouvait mettre les gens plutôt. Non, j'ai pas trouvé les autres scénarios. Voilà, ça, c'est pas des choses qu'on montre aux architectes. Ça, c'est des documents qui nous ont servi entre nous avec le ministère pour tester la façon dont les services pouvaient être regroupés les uns avec les autres. Et encore une fois, ce sont des documents d'aide à la décision. Par exemple, au cours de ce schéma, il y a des services dont le ministère nous a dit que finalement, ils n'iraient pas à Marne-la-Vallée. C'est au vu de ce schéma que finalement, il y avait des services où le ministère disait « Mais zut, finalement, lui, pourquoi il ira à Marne-la-Vallée ?» Donc je sais qu'il y a un ou deux services de recherche qui sont partis à Lyon, parce qu'à travers les schémas, le ministère a pris conscience qu'il valait mieux qu'ils aillent à Lyon qu'à Marne-la-Vallée.
Et pourquoi vous ne montrez pas ces documents-là aux architectes ?
Parce que les choses ont été validées et qu'elles ne vous servent pas à vous. Elles servent au ministère à dire pourquoi, si je reprends par exemple dans le domaine des systèmes de transport, vous avez un laboratoire, le LVMT, qui peut aller dans le cœur du pôle de Marne-la-Vallée, mais il pourrait aller dans un autre pôle à Lyon avec le génie urbain, le territoire. Je ne pense pas que ça relève d'un choix de maîtrise d'œuvre de se dire quels sont les ingénieurs du ministère qui doivent travailler soit avec l'INRETS. Ça, c'est des problématiques scientifiques qui relèvent du maître d'ouvrage. Celui-là ? Ah bah celui-là, il fait partie du concours. Celui-là, il fait partie du concours. C'est lui qui a calé le concept de bâtiment. On a, de temps en temps, vous savez, on découvre des choses quand même étonnantes. Hein. Presque par accident, on a découvert en visitant le laboratoire qu'il y avait des stocks de galets et de... Enfin, le laboratoire des ponts et chaussées, c'est un truc qui collectionne des machins hyper gros, moches, pesants, etc., qui n'intéressent personne. Et pendant un moment, ils se sont rappelés, ils ont fait un inventaire, ils se sont souvenus qu'ils avaient des stocks à l'autre bout de la région parisienne, je ne sais plus quoi. Et c'est des choses très importantes parce que ce sont des traces de tests sur des bétons. Et en cas d'accident, on sera obligé d'aller rechercher ces bétons pour vérifier qu'ils ont bien été calculés, etc. Et il y a un moment, le laboratoire avait oublié qu'il avait comme ça, droite à gauche, en région Île-de-France, des stocks de béton qui constituent un peu comme des archives, si vous voulez, et qui ont un enjeu extrêmement important s'il y avait des risques. Bon, on a par exemple toutes les archives du pont de Normandie. Donc c'est aussi le moment, quand je vous disais la programmation, quelquefois, c'est un peu l'occasion de faire le ménage. Mais dis donc, Paul, tu sais pas où est le truc là, voilà. Et là, c'est extraordinaire. Vous avez des maîtres d'ouvrage qui ont un tel nombre de mètres carrés qu'ils savent presque plus où sont leurs trucs, quoi. J'ai travaillé en Picardie et par accident, on a découvert des réserves du musée Guimet dans l'abbaye de Saint-Riquier. Donc nous, on l'a vu en le visitant, on en a parlé à la DRAC, c'est remonté et vous avez, je ne sais pas si vous avez visité l'exposition sur le temple d'Angkor, qui a été extraordinaire au musée Guimet l'année dernière ou il y a 2 ans. Eh bien, certaines pièces venaient de réserves qui étaient qu'on avait oubliées. Alors, c'est pas pour ça qu'on allait perdre, mais elles étaient, en fait, elles avaient été confiées à l'abbaye de Saint-Riquier et elles étaient dans des sous-sols. Voilà. Donc de temps en temps, quand on fait un programme, c'est bien un petit peu d'essayer de ramasser ces petits. Et puis des fois, on découvre des trucs marrants. Et là, on a découvert, par exemple, des gens où le ministère nous disait, mais je sais pas où on va les mettre. Donc ça a engagé, ça a obligé le ministère à faire des groupes de travail et à dire au fait, le laboratoire machin, c'est quoi? C'est plutôt Montpellier, c'est plutôt Lyon, c'est plutôt Paris, etc. Donc aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre et bien au-delà du projet immobilier, le ministère a aujourd'hui honnêtement une répartition de ses laboratoires et une optimisation qui est quand même plutôt sensée et qui normalement devrait positionner l'École des Ponts sur les secteurs de la recherche alors qu'elle avait énormément perdu d'attractivité dans ce domaine. Donc voilà le bâtiment aujourd'hui, si vous allez à la Cité des Cartes et à l'École d'Archi et à l'École des Ponts, si vous allez à l'École d'Archi, vous passez devant. Alors, il y a un incontournable dans les documents de programmation, c'est la présentation du site d'accueil. Là-dessus, on a quelquefois des espèces de fiches de l'eau, comme aiment dire les aménageurs. Ce qui est important, et je trouve qu'il est souvent pas assez renseigné, c'est tout ce qui concerne l'histoire des sites sur lesquels vous intervenez, où là, il y a des espèces de cartes invisibles sur les perceptions, sur les images mentales, etc. Bon, je ne vais pas faire le sociologue de service, mais je trouve que de temps en temps, on ne vous donne pas suffisamment d'éléments et que de temps en temps, ça provoque d'ailleurs des réactions de rejet d'un certain nombre de projets qui n'ont rien à voir avec le projet architectural. Donc je vous demande d'être assez exigeant là aussi vis-à-vis des maîtres d'ouvrage parce que vous avez, alors là je pense que vous êtes pleinement dans votre droit, vous intervenez sur des sites où je trouve que en dehors de la visite traditionnelle et de ce que vous trouverez sur Google, il y a quelque chose que vous n'aurez jamais, c'est l'enjeu d'aller au bistrot du coin, de passer une journée dans le quartier, de savoir qu'est-ce que ces sites signifient, comment ils sont perçus, comment ils sont vécus, même si on me dit souvent mais ça sert à rien parce que de toute façon on va tout changer. Ben oui, on va tout changer, mais enfin aujourd'hui on est sur un oikoumène qui est habité, donc où que vous alliez, en tout cas en France, il y a forcément un voisin, hein, ou une voisine. Donc je pense qu'il faut qu'on blinde un peu plus ces éléments. Bon, bien entendu, dans les programmes, vous devez trouver des études d'impact, hein, alors que ce soit les impacts au sens environnemental du terme, mais aussi les impacts sur la déstabilisation. Enfin, c'est comme dans un écosystème, tout étranger qui arrive, il bouscule un écosystème. Donc on bouscule une offre, on bouscule des pratiques, on bouscule des habitus, on bouscule des représentations mentales et des fois des charges symboliques qui sont assez fortes, comme par exemple à l'hôpital, sur tout ce qui est en lien avec la morbidité. Travailler par exemple sur le site de l'ancienne prison du Havre n'est pas si simple que ça, dans la mesure où c'est une prison qui était en pleine ville, ce que recherche aujourd'hui le ministère de la Justice, donc là on l'avait, et c'était une prison où certains habitants avaient encore, 6 mois avant, quelqu'un qui y était présent. Hein. Donc ça n'a pas été simple à gérer ça aussi au tout début. Bon, je voudrais qu'on consacre... qu'on avance un petit peu pour parler des exemples. Donc la faisabilité du programme. Alors la faisabilité du programme, elle est de plusieurs ordres. Elle est d'abord urbaine, en sachant que la faisabilité n'a rien à voir avec la pertinence. Hein. On peut très bien installer un objet sur un site qui soit faisable, mais sans que cet objet soit pertinent par rapport à des pratiques, par rapport à un bassin de consommation. On me parle souvent, par exemple, de tous ces lycées ou de ces collèges qui sont à un carrefour d'autoroute en périphérie, et on me dit c'était la meilleure faisabilité. Oui, certainement, mais c'est pas sûr que ce soit la meilleure implantation par rapport à des publics adolescents, en sachant qu'aujourd'hui, la plupart des publics adolescents qui sont dans des collèges ou des lycées neufs ne sont jamais dans des centres-villes. Ça interroge quand même sur des pratiques d'autonomie, sur la pratique de la ville, sur qu'est-ce qu'on fait avant ou après le collège ou après l'école ou après le lycée. Donc c'est sûr que depuis 15 ans, on a fait des très beaux lycées, ils ont tous des prix d'excellence, ils ont fait les revues d'architecture, ils sont impeccables sur le plan de la consommation énergétique, ils sont complètement dingues en matière de consommation carbonée obligée. Hein. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 15 mômes sur 3000 qui peuvent y aller à pied, tous les autres viennent en bagnole, en autocar, etc. Donc là aussi, on a une conception en France de ce que c'est qu'un équipement durable qui est assez spécial et qui est encore une fois complètement obsédé sur la question de la consommation énergétique, mais qui est très très peu attentive aux mobilités obligées et aux pratiques urbaines autonomes des adolescents ou des enfants, par exemple. Ah, on y arrive. Alors, je vais vous montrer un exemple d'investigation menée au stade d'un programme sur une faisabilité. Alors certes, elle est un peu caractéristique d'un équipement qui n'est pas n'importe lequel. C'est le carreau du temple. Donc le carreau du temple, ce sont des halles traces au sens du patrimoine de Régis de Brest, c'est-à-dire qu'il n'en reste plus qu'un tout petit bout. Pour ceux que ça intéresse, c'est juste à côté de la mairie du 3e. Vous pouvez regarder sur vos tablettes. C'est un projet qui a été gagné par l'agence Milou. Et donc, quand on intervient sur le carreau du temple, on a déjà des halles qui sont classées, mais qui ne sont que la faible trace d'un ensemble beaucoup plus vaste qui était un marché entièrement composé de halles Eiffel, même si c'est pas vraiment, elles sont pas sorties des ateliers Eiffel. Et donc la question qu'on nous pose, c'est de faire dans ces halles quelque chose que je vais vous raconter. Alors on intervient dans un contexte un peu particulier, c'est-à-dire qu'il y a eu, on est à la première mandature de la ville de Paris de Bertrand Delanoë qui a décidé que chaque arrondissement aurait un grand équipement. Donc chaque maire d'arrondissement se dit « Ouais les gars, faut y aller, allez hop !» Chacun a droit à un grand équipement. Donc le maire du 3e se dit « Moi, j'ai un truc sur les bras depuis des années, le carreau du temple, qui est pratiquement vide, même s'il y a des pratiques. Il y a des pratiques de sport, et il y a des pratiques résiduelles de vente de maroquinerie, puisque c'était un marché qui était devenu un marché, surtout après pendant la guerre. » Et un petit peu après, c'était le marché où on allait acheter ses sacs, ses godasses et ses blousons de cuir. Bon, évidemment, maintenant, ça ne marche plus du tout. Il reste quelques échoppes, mais qui le sont uniquement pour bénéficier des indemnités d'éviction. C'est-à-dire qu'ils ne vendent rien, mais ils font semblant tous les jours de venir et d'ouvrir leur échoppe pour juridiquement obtenir la meilleure indemnité. Sinon, il y a des pratiques sportives de glisse, de tennis. Et qu'est-ce qu'il y a ? Et de temps en temps, des expositions. Et surtout, des défilés de mode. Des défilés de mode qui rapportent énormément d'argent, car c'est un équipement qui est celui qui a le plus de recettes, parce que le cadre est extrêmement intéressant. Et la mairie du 3e, très astucieusement, le loue pour des défilés de mode. Et notamment, le plus fidèle, c'était Gauthier, qui adorait ce lieu pour faire des défilés de mode. Donc c'est un grand vide, comme toutes les halles d'ailleurs, hein, puisque c'est un toit posé sur un sol, ce que je dis souvent pour caractériser les halles. Et quand on commence cette étude, en fait, pendant la première mandature, le maire du 3e s'est dit « je suis assailli de demandes ». Donc il a des demandes de sport, il a des demandes de salle d'exposition, il a des demandes depuis les premières start-up, un peu du design, c'est... on est sur la fin du troisième, pas version Marais, mais version un peu République. Et donc, il a des demandes aussi d'artisans dans le domaine de la joaillerie, etc. Et puis, il a des demandes, toujours pareil, des cultureux, parce que les cultureux, ben, il leur faut toujours des salles pour danser, pour sauter, pour jouer, pour faire de la musique, du théâtre, etc. Et il se dit, mais je peux pas, quoi, c'est pas possible. Et il a une idée très intéressante, il lance un référendum populaire, ce sera le seul d'ailleurs à Paris, ouvert à tous les habitants, sans distinction de statut, etc. Donc c'est le seul référendum où des travailleurs immigrés ont eu le droit de voter, à Paris, mairie du 3e. Et alors il est très embêté, parce que le résultat du vote, c'est que c'est un tiers, c'est à peu près un tiers de voix qui veulent du culturel, un tiers de voix qui veulent du sport et un tiers de voix qui veulent un mélange des deux ou de l'économique. Donc il est très embêté et il demande à la ville de Paris de l'aide. Donc l'atelier d'architecture lui dit, bah, monsieur le maire, il faut faire une étude de programmation, sinon vous n'allez pas vous en sortir. On sera choisi et la ville de Paris en est donc pendant ce temps-là, le temps passe, on est à la deuxième mandature. Et donc la ville de Paris a une mauvaise expérience, c'est-à-dire que les quelques équipements qu'elle a lancés pendant la première mandature, dont le 104, la maison des métallos, sont tous des équipements qui explosent les budgets. Donc la ville dit, cette fois je ne vais pas faire comme sur les autres programmes, je veux bien lancer des études de programmation, mais je ne veux pas m'arrêter au stade de l'idée et de... du lieu un peu branchouille, je veux savoir exactement combien ça coûtera. Donc je vais choisir un programmier, je ne vais pas lui donner mon enveloppe, je vais lui dire qu'il a la carte blanche, mais je veux qu'il fasse une étude de faisabilité, et comme c'est un bâtiment patrimonial très protégé, qui va être très compliqué, puisqu'en gros on a du fer et du verre, en plus tout est classé, enfin non, tout est inscrit. Et ils nous disent, ben on va lancer, ils lancent ce concours avec l'obligation de faire une faisabilité de niveau APS. Parce que c'est la première fois que ce sera fait à Paris. Alors je vous dirai au fur et à mesure ce qu'on en a pensé. Au début, on s'est dit qu'ils étaient un peu tapés, ou alors qu'ils étaient très riches. Et puis surtout, on a un peu paniqué en se disant, ben, punaise, il y a un APS du carreau du temple, mais comment on va faire ça ? Alors, on a formé un groupement avec Philippe Simon, qui est un architecte du patrimoine et historien de la ville de Paris, avec lequel j'ai souvent travaillé. On a été lauréat de cette consultation, et donc on a commencé cette mission sur cette base contractuelle, c'est-à-dire qu'on avait carte blanche pour imaginer la programmation du lieu, à condition d'arriver un tiers sport, un tiers culture, un tiers autre. Voilà, c'était la règle. Alors, je vais vous montrer la faisabilité au stade de ces études. Alors, tout d'abord, au niveau des solutions architecturales, voilà, plus c'est économe en schéma, plus ça sert. Voilà. Vous avez ici la problématique, c'est-à-dire qu'on a une halle déjà qui a été amputée ici d'un immeuble d'habitation. Ce qui veut dire que dans notre halle, on a des murs mitoyens avec des gens qui habitent. Donc, ça veut dire qu'ils vivent le jour, et ça veut dire que la nuit, ils dorment, voilà. Donc nous, quand on fait du bruit ici, on les embête. Voilà. Donc ça déjà, c'est une règle importante à savoir. On a des géométries très claires, je vous montrerai toutes les photos tout à l'heure, à savoir qu'on a ici... On a ici donc une halle qui est en fait trois halles, c'est-à-dire il y a une halle centrale. Excusez-moi, je suis mal, donc je suis toujours très tactile. Ici, on a un espace occupé par les services de la ville de Paris. Donc là, on a un problème de phasage, c'est-à-dire on ne sait pas quand ils vont partir. Pour qu'ils partent, il faut leur faire des locaux, c'est les services de nettoyage. Donc on va très vite s'apercevoir de ce que je vous disais ce matin, c'est-à-dire qu'un programmiste, c'est aussi quelqu'un qui révèle des choses, enfin il n'y a rien d'extraordinaire, mais simplement quand on commence à se mettre dans une posture préopérationnelle, on voit surgir un nombre incroyable de problèmes où tout le monde avance, s'en tape un peu. C'est-à-dire qu'on se dit quand même, depuis le temps qu'ils veulent faire quelque chose dans le carreau du temple, ils ont dû réfléchir à qu'est-ce qu'ils font des services de la ville de Paris qui ont leur benne de nettoyage. Ben non. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas un programme sur les halles, ben, il y a forcément un service qui se dit « bon, ben, j'ai encore gagné un an, j'ai encore gagné un an, j'ai encore gagné un an ». Et quand vous arrivez, que vous faites de la programmation, vous avez l'impression d'emmerder tout le monde. Parce que vous posez, par exemple, la question, voilà, on fait quoi, là? On vous dit, mais non, mais là, c'est pas possible, parce que pour partir d'ici, il faut construire un bâtiment. Bon, bah alors, on va y aller, les gars, on va commencer maintenant. Donc, effectivement, vous enclenchez des décisions, des atermoiements, des validations. Alors, tout s'est bien fait, hein. D'un seul coup, il y a eu un groupe de travail qui s'est créé sur, voilà, qu'est-ce qu'on fait des services de nettoyage de la ville de Paris. Ils ont fait leur programme, ils ont fait leur phasage. Puis d'un seul coup, ils se sont aperçus que s'ils se brouillaient, ça pouvait être compatible. C'est-à-dire qu'ils pouvaient partir avant que nous, on commence les travaux. Donc ici, on a un plan de composition très simple que vous verrez tout à l'heure, avec un principe de circulation très simple. Et une particularité, c'est que c'est un espace qu'on traverse également dans ce sens-là. Voilà. Ce schéma, Philippe l'a fait dès le début, il nous a servi pendant 2 ans et demi d'études, hein, y compris en concertation avec le quartier, etc. Ça n'a jamais varié. Avec ces 4 schémas, on pouvait expliquer à tout le monde les problèmes de la programmation du carreau du temple. Donc il n'y a pas besoin de faire de la logorée de choses incompréhensibles. Ici, vous avez un exemple de... Alors, le travail de programmation, il s'est calé sur le diagnostic. Philippe a fait toute une étude de patrimoniale, c'est-à-dire qu'est-ce que c'était que les halles, il est allé dans les archives historiques, etc. Là aussi, très étonnant, on se dit la ville de Paris, elle connaît tout. Ben non, en fait, on a retravaillé avec Philippe sur la Tour Eiffel. J'ai été là aussi par terre, puisqu'il a fallu qu'on apprenne à la Tour Eiffel et à la ville de Paris qu'on aille lui trouver des archives sur la Tour Eiffel. Donc ne croyez pas que les maîtres d'ouvrage ou les exploitants ont tout. Très très souvent, c'est absolument hallucinant. Donc on avait dans notre marché une commande d'une étude patrimoniale exhaustive, historique, du carreau du Temple. Et on a trouvé des choses à la ville de Paris. On a trouvé des choses au musée historique et on a trouvé des choses ailleurs. Et dans cette étude des Halles de Paris, le déclencheur, ça a été d'une part de voir que, bah, évidemment, ça a toujours été un lieu entrée-sort, a toujours été un lieu qui était en courant d'air, ce dont se plaignent les utilisateurs, hein, puisqu'on commence l'étude en plein hiver, et c'est vrai que l'hiver, il pouvait y avoir moins 10 à l'époque, et l'été à peu près à cette époque, je pense qu'on ne pouvait même pas y rentrer. Puisque je crois qu'ils ont enregistré des 45 degrés ou des choses comme ça. Et donc, on nous a dit, il faut absolument que vous créiez une boîte dans la boîte. Et plus Philippe Simon avançait dans l'analyse du patrimoine, plus on se disait, c'est aberrant, puisque tout ce qui fait l'intérêt, et vous verrez aussi en termes d'ambiance et de perception, c'est-à-dire que s'il y a des défilés de mode, c'est aussi parce que c'est pas un endroit banal. Et en fait... la plus grande chose qui nous a handicapés, c'est le travail qu'avaient fait les habitants avec un atelier public, où ils sont tous partis en promettant de faire des boîtes et en promettant de faire un sous-sol, de faire des quantités de choses. Et nous, très très vite, on s'est dit, mais on peut absolument pas être en phase avec ça, puisque en fait, on nous demande de détruire pratiquement ce qui fait le cachet des halles pour y mettre des programmes bourrés jusqu'à la gueule, quoi. Donc la première chose qu'on a fait, ça a été de commencer... un travail vraiment psychologique et politique auprès du maire pour lui dire, bon, vous avez fait plein de promesses, maintenant il va falloir moduler un peu le discours, c'est-à-dire on va garder les promesses, un tiers, mais déjà, nous, on va commencer à vous dire, on ne peut pas faire tout ce que vous avez promis, c'est pas possible. Donc, on a fait une programmation par négatif, c'est-à-dire qu'on a commencé à enlever des choses. On a enlevé tout ce qui, normalement, supposait d'être clos, et qui était en contradiction avec le monument et son espace ouvert. Ensuite, on a enlevé tout ce qui était incompatible avec les fouilles archéologiques, parce qu'on en a, et qu'on ne peut pas creuser au-delà d'une certaine distance. Et après, on a enlevé tout ce qui nous servirait à faire des circulations verticales et des espaces servants. Ce que vous allez vite comprendre, on est sur une proposition d'un concept de lieu assez hybride, sport, culture, économique, événementiel, dans lequel on a besoin... Et ça, c'est un point de vue de programmiste, d'ailleurs, parce que je me suis rendu compte qu'à la direction de l'architecture, ils ne l'avaient pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais pensé une seconde que le prix à payer pour avoir une multitude d'usages, c'était d'avoir beaucoup d'espace de stockage et d'espace servant. Donc le travail qu'on a fait,
que je trouve à la réflexion très intéressant, c'est la première fois où je fais un programme où je passe mon temps à enlever des mètres carrés. D'ailleurs, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on n'a pas arrêté d'enlever et de zénifier le programme. Donc on s'est retrouvé avec un programme très 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 inférieur à ce qui avait été vendu aux habitants. Et là, on nous a dit, il n'y a pas de problème, vous nous avez convaincus, mais bien entendu, c'est vous qui allez aux réunions. Ce qui est un peu normal, voilà. Et ça s'est très très bien passé, parce que quand vous expliquez à des habitants qu'ils ont réfléchi, par exemple, sans escalier pour aller au sous-sol, bah, les gens ne sont pas débiles, quoi. Ils vous disent, bah, ah ouais, ouais, on avait oublié. Il faut quand même des escaliers, il va falloir des ascenseurs, des monts de charge, bon. Et puis, quand on a montré aux habitants la qualité des halles et qu'on leur a dit, bon, ben voilà, on veut bien hein, vous faire des boîtes, mais vous allez voir ce que ça fait. Honnêtement, on n'a eu aucun problème, aucun problème. Par contre, là où on était très embêtés, c'était qu'un atelier public d'architecture avec des architectes, je dois le dire, ait pu travailler avec des habitants comme ça, de façon quand même un peu démago, alors qu'à mon avis, il y a un véritable travail de... presque d'université populaire qui est beaucoup plus intéressant à faire avec les habitants. Mais bon, il y avait des positionnements politiques qu'on a compris après. Donc ici, vous avez une faisabilité de ce résultat. C'est-à-dire qu'en gros, on a identifié deux halles qu'on conserve en l'état, dans lesquelles on essaye simplement de voir ce qu'on peut faire en termes de pratiques sportives sans les clore, puisque le principe au Carreau du Temple a toujours été de ne pas clore l'espace. Donc il y a une halle qui est plutôt dédiée à des jeux de balles, une halle qui est plutôt dédiée à des jeux de glisse. Nous, on avait mis au fond une salle de gymnastique et de cirque, parce qu'on a une très très grande hauteur de plafond. Voilà, vous les voyez, ces halles. Donc, voilà, elles sont comme ça. Donc, vous pouvez imaginer un petit peu ce que ça aurait fait de faire des boîtes pour faire une piscine ou une médiathèque ou je ne sais pas quoi. Donc, la faisabilité. Alors, vous voyez ici une solution de base. Pour votre information, on a dû faire 6 ou 7 scénarios en fonction de problématiques. Et je reboucle avec le cours de ce matin. Quand je vous dis qu'il y a des questions qu'on ne peut pas forcément résoudre au stade du pré-programme, on avait une salle de spectacle dont on n'arrivait pas à définir la jauge. Soit on la définissait en fonction des contraintes du bâtiment, c'est-à-dire que de toute façon, elle ne pouvait pas faire plus de temps. Donc selon qu'on la mettait au rez-de-chaussée ou selon qu'on la mettait en sous-sol, on n'avait pas le même modèle économique. On n'avait pas les mêmes contraintes de sécurité incendie. Et c'est bien parce qu'on a fait une faisabilité de niveau esquisse, parce que maintenant je peux vous le dire, finalement je donne raison à la ville de Paris, et d'ailleurs c'est la seule opération de la ville de Paris qui n'a pas eu le moindre dépassement. Après le dépassement qu'il y a eu, il y en a eu un, c'était avec le premier directeur, qui vient d'ailleurs d'être lourdé, et qui, pour des raisons que je ne m'explique pas, a commencé à demander des modifs le premier jour de son arrivée, et des modifs qui ont coûté cher. Mais mis à part ça, c'est le seul programme de ce niveau d'importance qui a respecté totalement, et avec en plus des prestations architecturales de très très haut niveau, l'enveloppe imaginée. Et c'est objectivement vrai que c'est grâce au fait que la ville nous a obligés à faire un travail de conception d'esquisse, avec des fois des détails très très poussés sur l'acoustique, sur le thermique, et sur cette question de salle de spectacle. Donc pour faire court, vous voyez ici une des solutions. Il y en a eu 7 ou 8. Et ce que je vais vous montrer, donc ici vous avez une simulation d'une salle de spectacle en bas, qui sera finalement la solution non retenue par le cabinet Milou, qui lui aura une autre stratégie, c'est-à-dire qu'il mettra la salle de spectacle en haut. Il a raison, il s'est beaucoup moins embêté que nous, il a une salle de spectacle qui est nettement mieux. Mais par contre, on a perdu la fonction cirque. Bon, c'était pas une fonction exigée, donc... Pour moi, d'ailleurs, quand on a analysé le projet, on a dit que voilà, c'était très bien. Alors, pourquoi on a étudié plusieurs variantes ? On a étudié plusieurs variantes en fonction de la jauge de la salle et du modèle économique induit. C'est-à-dire que selon qu'on a une salle d'une plus grande jauge, plutôt cinéma ou plutôt variété, on a des rentrées économiques qui sont très, très différentes. Donc, on a fait des simulations de modèles économiques du Carreau du Temple en coût de fonctionnement et en rentrée. Et on a aussi fait quelque chose que j'avais jamais fait à l'époque, mais maintenant c'est banal, c'est-à-dire qu'on m'a demandé de faire l'organigramme du Carreau du Temple, puisque la ville de Paris n'avait jamais géré un équipement hybride. Donc elle a validé le concept, mais elle nous a dit « je ne sais pas gérer ça ». C'est-à-dire moi je gère des équipements culturels, ou je gère des équipements sportifs, où je gère des équipements d'animation. Mais un bazar pareil, je ne sais pas. Donc elle nous a demandé de faire une espèce de préfiguration de ce qu'impliquait un modèle de gouvernance qui finalement a été confié à une DSP, puisque pratiquement au sein de la ville de Paris, on ne sait pas faire ce genre de choses avec du personnel de la fonction territoriale. Ça, c'est le projet Milou. Mais vous en avez des beaucoup plus beaux sur Internet. Et ça n'a rien à voir, c'est Angers. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, même si on se voit pas Oui, je veux bien, parce qu'en plus j'ai un espèce de lampe dans les yeux, là c'est très bien.
En fait, l'architecte
est Pardon ?
Vous avez travaillé avec un architecte et après, chez l'acheteur, il y avait un contrat.
Oui.
Sur cette base-là.
Oui.
Et ces dessins-là étaient communiqués ?
On a eu une. Enfin, on était vraiment dans une culture maîtrise d'ouvrage programmation très, 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 très congruente et on est tombé d'accord. Enfin, nous, depuis le début, on se disait avec Philippe, il faut absolument que ces études soient communiquées. On avait deux craintes. C'est de couper un peu l'herbe sous le pied en se disant, mais est-ce que ça va être marrant pour un architecte de répondre à un concours comme ça voilà. Et la deuxième interrogation qu'on avait, on se disait, bon, si jamais on a fait une bêtise, etc., s'il y a un truc, on n'est pas d'accord, on souhaitait que les études soient communiquées. Et en fait, le jour où on a mis ça à l'ordre du jour, la ville de Paris était arrivée en disant, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? On aimerait bien communiquer l'étude. Et on a dit, mais c'est absolument ce qu'on voulait, quoi. Donc l'étude a été communiquée, donc les architectes... Alors ils avaient d'abord un gros pavé d'études patrimoniales, donc ça ils ont énormément apprécié. Et puis surtout, on s'aperçoit que ça les a pas du tout... Enfin après, ils nous ont dit que ça les avait beaucoup servi et ça les a pas gênés, puisque encore une fois, le cabinet Milou, il a pas du tout mis la salle de spectacle au sous-sol, alors que nous on l'avait toujours mise au sous-sol, ça les a pas...
Et par rapport à la prise d'ouvrage, ça n'a pas trop fixé les idées
Non, il y avait Odile Deck aussi qui avait répondu, il y avait je ne sais plus qui, et curieusement, quand je les rencontre les uns les autres, enfin plus maintenant, mais à chaque fois je leur disais alors, en gros, ça, vous en pensiez quoi? Et j'étais très étonnée, mais ils m'ont dit, mais attends, avec la problématique thermique, le machin, on avait, en gros, on avait suffisamment de boulot sur les questions patrimoniales, sur les questions que, voilà, le fait que vous étiez, que vous soyez allé très loin dans la programmation ne nous a pas gênés. Parce que l'enjeu pour eux n'était pas là. Il n'était pas de savoir si la salle de sport, il fallait la mettre plutôt à gauche ou à droite. Mais ils avaient des questions redoutables à résoudre. Après, il y avait aussi ce petit problème des petites échoppes qui sont conservées. Donc, on ne savait pas trop quoi en faire. On avait proposé qu'elles soient sous roulette, qu'elles puissent servir de vestiaire, etc. Donc après, quand la DRAC avait validé ça, quand il y a eu la première visite, la DRAC a dit bah non, écoutez, nous on a validé ce qu'a proposé Prodé, elle peut être sur roulette, etc. Donc on s'est dit, les architectes ils vont dire il y en a marre, quoi, tout est ficelé. Et en fait, les trois équipes nous ont toujours dit non, le programme, on a gagné du temps et on a pu vraiment se mettre à fond sur les questions d'architecture. Il y avait des questions aussi redoutables sur le choix des verres, sur les techniques, on dépose pas, c'était un bâtiment qui était en mauvais état, hein. Il fallait tout changer, il y avait des problèmes de chantier, il y avait l'archéologie, il y avait la flotte, en gros ils nous ont dit écoutez on avait suffisamment d'emmerdes comme ça, donc en plus le programme ils le trouvaient plutôt intéressant, et ce qu'ils nous disaient c'est qu'en plus ils savaient qu'ils allaient faire de l'architecture intérieure, etc., et qu'ils n'allaient pas être gênés par est-ce qu'il n'y en a pas un qui allait faire une boîte pour faire une piscine ou un truc comme ça. On avait bien déblayé la commande, quoi. Mais sincèrement, moi-même, j'étais étonnée, et Philippe était très rassuré aussi. Bon, lui, il est architecte, il répond à des concours et tout. Donc, on a beaucoup aussi travaillé ensemble sur la façon d'exprimer les choses. Mais c'est vrai que notre crainte, elle n'a pas été du tout perçue comme ça par les architectes.
C'est un cas plutôt rare. Enfin, moi, j'ai jamais vu un programme à ce stade-là de l'essence.
C'est pas le programme qui est à ce stade-là, c'est l'étude de Feuzard. Parce que nous, après le programme, on a refait... on a fait des schémas pour montrer comment rentrer toutes les pratiques sportives dans une halle plutôt qu'une autre. Il y a des choses où on s'est trompé. On a demandé un sol lumineux pour éviter d'avoir des revêtements de sport au sol, ce qu'on a d'ailleurs. Par contre, on avait demandé d'avoir des rideaux, si possible, pour ne pas gêner les sports de balle, etc. Ça, la pratique, ça ne s'avère pas forcément possible et tout. Mais on n'a pas imposé l'esquisse comme le projet architectural. Après, il y avait un programme avec une halle de sport, une halle de sport qui pouvait se transformer en podium. Il y avait le principe des échoppes qui devaient pouvoir bouger, être rangées sur les côtés. Il y avait un principe très très fort, je vais vous donner un exemple. Nous, on avait gardé des surfaces pour un mur servant, qui était le mur du fond, où là, on stockait les matériels, les fluides, le son, la lumière, etc. Et en fait, le cabinet Milou n'a pas retenu ça. Il a fait un sous-sol technique sur toute la... Donc, je dirais presque, il m'a dit souvent, moi, ça m'a facilité le boulot, hein, parce que j'avais vu votre option, j'en ai cherché une autre. J'ai trouvé qu'on aurait encore plus d'espace si on n'avait pas ce mur servant. Moi, j'ai mis ça dans les planchers. Je dirais, on était là pour leur faciliter le travail, et pas pour leur dire qu'il faut faire ça.
Des faits comme ça, vous faites ça souvent, ou c'est un truc unique?
Moi, j'aimerais faire que ça.
Oui, ça, je comprends.
Mais il faut avoir une maîtrise d'ouvrage éclairé. C'était les bons temps de la ville de Paris. Elle ne faisait pas bosser les gens à l'œil sur l'innovation. On a fait les études de programmation de patrimoine et de FESA, trois ensemble. C'est-à-dire qu'on travaillait simultanément. Moi, je travaillais sur les programmes qu'on pouvait mettre dans le carreau du temple, sur le principe d'un équipement hybride, au fur et à mesure que Philippe me faisait découvrir l'histoire du carreau, le fait qu'il ne fallait pas clore les halles, qu'il fallait trouver des activités sportives compatibles avec le fait d'être ouvert, pas ouvert. Donc il y avait des choses qu'on enlevait, il y a des programmes qu'on enlevait. Et il faisait la faisabilité au fur et à mesure que j'élaborais le programme. Et on avançait complètement ensemble. Ce qui fait, par exemple, la jauge définitive de la salle, on la calait en fonction du faisable, de l'intentionnel et du modèle économique de salle de spectacle. Et puis, après, la ville de Paris, ça l'a aidé. J'ai oublié de vous dire. En fait, la ville de Paris, c'est à partir de là qu'elle a validé l'estimation prévisionnelle de notre économiste. Et effectivement, on a découvert des surcoûts qu'on n'aurait certainement pas imaginés, notamment des surcoûts de confort thermique, parce que la ville voulait absolument un bâtiment développement durable. Et donc, nous, on voulait pas qu'il y ait... Enfin, pour nous, c'était forcément un bâtiment qui restait très frugal en confort d'hiver et d'été. Parce que sinon, on était dans un lobby du Sofitel. Donc la ville voulait qu'on garantisse aux usagers un confort, une température minimale d'hiver. Et nos bureaux d'études ne voulaient pas s'engager sur le confort minimal d'hiver. Donc ça durait un certain temps. Après, on a trouvé des solutions techniques. Et à chaque fois, on disait à la ville, c'est 500 000, 300 000, c'est 1 million, c'est 2 millions. Voilà. Et il y a un moment où la ville a dit, bon, bah, alors ce sera comme ça. Vous vous engagez, on ne s'engage pas sur un confort d'hiver, encore que... Il n'y a aucun problème aujourd'hui. On peut y aller en pull, on jouera au tennis en pull, ça fait du bien. Mais c'est pas le problème. Mais c'est vrai que ça a permis à la ville. Après, on est passé en Conseil de Paris. Hein. On est venu présenter le prochain Conseil de Paris avec le budget. Donc il y a eu une enveloppe supplémentaire. Mais la règle, et je la trouve très intéressante en termes de gouvernance, c'était de dire, on accepte maintenant de vous donner plus d'argent sur ce projet, mais il n'y aura pas un rond de plus après. Ne faites pas le coup de « j'ai oublié ça, j'ai oublié ça, j'ai oublié ça ». Et c'est en ça que cette opération a fait référence à la ville de Paris, parce que depuis cette opération, il n'y a jamais plus eu de mauvaise surprise entre l'estimation du programme et le résultat final. Mais parce que la ville aussi nous a obligés avec nous aussi à s'apercevoir que, objectivement, je pense que nous-mêmes, on aurait sous-estimé certains postes. Par exemple, on s'est aperçu qu'il fallait défaire tous les verres un par un. Après, les architectes avaient le choix de trouver des verres plus ou moins calorique, je ne sais pas quoi, etc. Mais par exemple, vraiment bien estimer le coût de la dépose des verres, leur stockage à chez Pulou, leur retour, etc., et bien ça fait des surcoûts. Quoi. Donc quand la ville est partie sur cette opération, je dirais, je vois pas les surprises qu'on avait vraiment tout étudié. Et je reconnais, je trouvais cette démarche luxueuse et je trouve que ça se justifie sur cet équipement. Ça se justifie.
Et est-ce que vous pourriez nous parler des contrats que vous passez avec la méthode pour vous passer commande et les rémunérations qui sont en place et l'échange que vous pouvez avoir avec
En gros, comment on est payé?
En gros, non, mais après, ça peut peut-être vous embêter de nous parler de ça. Mais,
pas du tout.
Maintenant, au niveau de notre pratique future, c'est intéressant pour ceux qui peut-être voudraient aller dans cette voie-là d'une part, ou pour ceux qui vous auront en face d'eux après, de bien savoir
comment ça se passe. Vous m'aurez de moins en moins. Non, il n'y a rien. D'abord, je vous signale qu'on répond à des marchés publics, c'est traçable, c'est publiable. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas parler argent. Je pense que c'est même bien que la ville de Paris prenne l'habitude de parler argent avec ses prestataires. Donc, nous, on a été à cette époque bien payés. On a perdu de l'argent sur la partie bureau d'études techniques. On est un bureau d'études techniques qui est parti, qui n'a pas voulu faire les études de simulation thermique parce que trop compliqué, et il trouvait qu'il y avait trop d'Ixit. Il m'a dit moi je ne veux pas travailler avec la ville de Paris, il y a trop de réunions. Donc évidemment il ne connaissait pas la ville de Paris, donc il avait l'habitude de travailler qu'en maîtrise d'œuvre, et pour lui les réunions étaient du temps perdu. Alors ça, c'est sûr que quand on travaille avec la maîtrise d'ouvrage public, si on part du principe que les réunions sont du temps perdu, il faut changer de métier. Surtout avec la ville de Paris, c'est infernal, mais je lui reconnais que c'est une maîtrise d'ouvrage. En tout cas, à l'époque, cette direction de l'architecture est une maîtrise d'ouvrage hyper professionnelle, et même une réunion, c'est du plaisir. Donc, le problème qu'on a eu, c'est qu'on a eu un bureau d'études défaillant qui a dit « moi, je perds de l'argent, la ville de Paris, j'en ai rien à foutre, je me barre ». Donc là, il a fallu trouver un bureau d'études, et les bureaux d'études, ils ne sont pas très intéressés pour travailler dans la programmation. Parce que c'est pas intéressant, ils peuvent pas concourir après, et ils estiment qu'ils perdent de l'argent, qu'il y a trop d'ingénieurs à mobiliser. Alors c'est vrai qu'il nous fallait des thermiciens, des acousticiens, des truxiens, je sais plus quoi, sur le froid, le chaud, le bidule, machin, etc. Enfin, c'était à les écouter, c'était l'horreur. Bon, l'avantage, c'est que Philippe Simon fait de la maîtrise d'œuvre, donc il était là un peu de temps en temps pour leur dire, dites donc les gars, ça va quoi. Faut pas non plus exagérer, nous aussi on perd du temps, nous aussi on est en réunion. Bon, c'était très utile d'avoir un architecte qui fait de la maîtrise d'œuvre avec nous. On a des architectes, mais là c'était très utile. On a retrouvé un bureau d'études, mais il a fallu tout lui réexpliquer, etc. Et là on a perdu beaucoup d'argent, enfin de temps. Alors on est rémunéré en temps passé, mais c'est contractuel, c'est-à-dire qu'on fait une offre, il ne faut pas trop se tromper. C'est sûr que le carreau du temps, je ne pense pas qu'on ait gagné beaucoup d'argent. On y a gagné en intérêt, en réputation, en honorabilité avec la ville de Paris. Mais alors, ça, c'était quand même maintenant, il y a pratiquement 10 ans. Le chantier a été très très long. Il y a eu en plus les fouilles archéologiques ont duré 2 ans. J'enseigne dans d'autres domaines avec des étudiants qui font de la maîtrise d'ouvrage et qui sont souvent très étonnés de ces fameux délais. Vous voyez que pour moi, c'est une étude qui a duré... entre le moment où j'ai fait l'étude et la sortie, c'est pratiquement passé 8 ans. Et ce qui est très intéressant, c'est en termes électoraux. C'est-à-dire, le maire du 3e, le premier mandat, il a eu des gens qui l'emmerdaient en lui demandant « Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites avec le carreau du temps ?» La deuxième mandat, il a lancé son atelier public et il pensait pouvoir lancer des études. Et ce n'était pas possible. Nous, on nous a sélectionnés à la fin de sa deuxième mandature, et la troisième mandature, il a dit « Bon, ben, ça va, je coupe le cordon. » On a dit « Non, non, il faut vraiment que vous restiez maire du 3e. » Très longtemps. Et en fait, il l'a inauguré dans son 4e mandat. Donc vous voyez que politiquement aussi, c'est pas simple. Hein, parce qu'il aurait pu, à la limite, ne pas être élu, et c'était un autre maire, etc. Et il en a vraiment bavé. Et le pauvre, à chaque fois qu'il nous voyait, il me disait « Madame Granger, je vous aime bien, mais à chaque fois que je vous vois, je prends un an dans la vue. » Et c'était vrai. C'est-à-dire qu'il y a eu le chantier de fouilles, il y a eu le concours, il pensait qu'on lançait un concours comme ça. Il y a eu la ville qui lui a dit « On va faire des études d'APS ». Là, il était vert. Il a dit « Mais c'est pas possible. Vous le faites exprès. Vous faites plaisir avec ce truc, quoi. » Après, il a toujours suivi la démarche. Et aujourd'hui, il dit « Non, mais super, etc. » Mais moi, je me mets aussi à sa place, quoi. C'est-à-dire, à chaque fois, on se disait « C'est pas possible. S'il est viré, s'il n'est pas réélu, quoi. C'est le temps qu'il y passe, les promesses qu'il fait, il verra jamais son carreau du temps, quoi. 4 mandats. Et on ne peut pas dire que la ville a perdu beaucoup, beaucoup de temps, hein. On aurait peut-être pu gagner un mandat de plus, le premier truc, mais pas plus que ça. Donc, faut pas sous-estimer ces problèmes non plus. Et c'est pour ça que, vous voyez, on parle d'un équipement hybride. Moi, j'en parlais il y a 10 ans. Aujourd'hui, vous devez vous dire, bah ouais, quand on du temps, etc. Mais il y a 10 ans, quand vous disiez ça à la ville de Paris, vous disiez, c'est quoi un équipement hybride ? Sport et culture. Et avec des positions très, très marrantes. D'ailleurs, on a eu la direction de la culture qui est venue à la première réunion. La deuxième, elle a dit, je viens plus. Et on lui a dit, mais attendez, c'est une règle, tous les services sont concernés. Mais non, ce ne sera pas un équipement culturel. Et ils se sont fait remonter les bretelles par la DG qui a dit, mais attendez, pourquoi vous ne voulez plus venir ? J'ai pas de temps à perdre, c'est pas culturel. Parce que c'était pas 100% artistique. Donc vous voyez aussi des positionnements très très particuliers. Après, alors on avait les sports qui venaient tout le temps. Et puis au fur et à mesure, on nous disait, mais nous, il y a des studios de répétition. On ne sait pas gérer ça, Angers, studio de répétition, parce qu'au sous-sol, on a mis de la danse, des arts martiaux, des studios de répète, je ne sais plus quoi. Et là, on voyait, alors on avait un bon élève qui était le sport, mais qui au fur et à mesure disait, mais je ne sais pas faire, je ne sais pas faire. Bon, on va s'occuper des vestiaires, aujourd'hui, même Angers, hein, on va s'occuper des vestiaires. Oui, oui, mais il y a une salle de machin. Ah, mais nous, on ne saura pas, un studio de répétition. Il y a du numérique là-dedans, hein. Il y a des jeunes, etc. Il dit, ah ben oui, mais vous gérez des centres d'animation, vous avez des jeunes et des studios de répète. Ah oui, mais c'est la direction de l'animation, alors plutôt, hein. Pas le sport-sport, la direction de l'animation. Donc effectivement, on passait un temps dingue en réunion, parce que du coup, il faut faire venir d'autres personnes qui s'occupent des centres d'animation de la ville de Paris, etc. Mais la culture, j'ai trouvé ça mais vraiment de très méprisant, quoi, parce que c'était pas artistique, on va pas perdre notre temps. Donc ils sont jamais venus. Ils sont jamais venus et à chaque fois on se disait quand la salle de spectacle va sortir, ils vont commencer à dire on n'a pas été associé, on voudrait savoir qu'il y a des loges, etc. Donc heureusement qu'on connaissait la direction de la culture par ailleurs. Mais voilà, le programmiste il gère ça aussi, hein. C'est-à-dire éventuellement pourquoi il y a des services qui veulent pas venir aux réunions, quoi. Il faut remonter aux directions générales, fallait voir d'amont à la direction de l'architecture, on est dans faut que tout le monde soit groupé, hein, parce qu'un équipement hybride, ça concerne tout le monde. Ça concerne le social, l'économique, la culture, le sport, etc. Bon, aujourd'hui, ils vous disent, c'est évident ce lieu. C'est tout à fait la culture parisienne. Mais il y a 10 ans, non, c'était pas du tout la culture parisienne. Donc, mais je suis très contente que... Enfin, pour moi, c'est ça, faire notre boulot. Hein, parce que si c'était à l'époque pour leur dire, on vous fait le programme de ce que les gens demandaient, une piscine, une médiathèque, une salle de dessin, une salle d'exposition, un podium, un truc, etc., je pense qu'ils n'avaient pas forcément besoin d'un programmiste pour ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on aurait des boîtes dans la boîte et ce serait... Enfin, à mon avis, ce serait plutôt pas bien, quoi. Enfin, je sais pas, je pense.
Est-ce que vous pouvez parler comment la promotion se fait à l'étranger, puisqu'il y a pas
de... Alors, j'en sais rien. D'abord, je vais bientôt tirer pour mon train. Non, je ne dois pas rater un train ce soir. Non, j'en sais rien, parce que moi, je refuse de travailler à l'étranger. Alors, non pas que je sois franchouillarde, mais je pense que la programmation telle que je la conçois est un exercice situationné, et je ne me vois pas travailler dans des pays dont je n'ai pas les codes, la langue... Donc je refuse de travailler à l'étranger et je ne sais pas bien. Je le sais parce que voilà, je me suis occupée de la programmation beaucoup en France, y compris syndicalement. Il n'y a rien d'équivalent à ce qu'on fait en France. Mais vous avez remarqué qu'ils font des trucs super aussi. Hein. Je veux dire, c'est pas lié à la programmation, c'est pas lié à ça. C'est que ce que nous on a contenu dans un métier est partagé dans une culture de la maîtrise d'œuvre. Là-bas. C'est-à-dire que la plupart des choses que je fais, par exemple dans les pays anglo-saxons, sont faites dans les cabinets de maîtrise d'œuvre. Ou alors, ça je m'en suis aperçue quand j'ai fait le programme de la Bibliothèque de France, parce que je suis allée en Allemagne rencontrer des équipes, et alors eux ils étaient outrés que la Bibliothèque de France puisse confier la programmation à des gens de l'extérieur. Et pourquoi ? C'est parce qu'en Allemagne, la maîtrise d'ouvrage public est censée faire la programmation en interne. Donc il n'y a jamais de choses confiées à l'extérieur.
Et c'est soit
le maîtrise d'œuvre
qu'on fait, soit
un maîtrise d'ouvrage. Bah oui, c'est l'un de l'autre, hein. Il n'y a pas photo. Hein. Parce qu'encore une fois, ça se fait.
Oui, bien sûr, mais après, en fait, la question est par rapport à nous, étant futur architecte, il faut peut-être être amené à travailler. Du coup, si on va travailler ailleurs dans des pays, on est attendu de faire aussi le programme.
Oui, bah, regardez par exemple MVRDV, ils savent tous faire de la programmation. Et moi, je pense que la programmation, on en a fait artificiellement un métier, mais je pense que maintenant, vu les modes de rémunération, elle va être intégrée soit dans la maîtrise d'ouvrage, soit dans la maîtrise d'œuvre. Mais je dirais que je n'ai pas du tout de débat corporatif là-dessus. Ce que je regrette, c'est qu'il y ait des approches de programmation qui sont perdues et qu'on ne fait plus aujourd'hui. Mais la programmation peut être faite par les habitants, la programmation peut être faite dans les équipes de maîtrise d'œuvre, elle peut être faite dans les équipes de maîtrise d'ouvrage. L'essentiel, c'est le capital qu'on a constitué, et ce capital, c'est des programmistes qui l'ont fait. Mais aujourd'hui, ils sont en train de le brader pour des raisons économiques qu'on connaît tous. Donc l'essentiel, c'est de ne pas perdre le savoir. Après, qui l'exercera, qui l'utilisera, ça, c'est des logiques autres. Alors, on a beaucoup... C'est drôle, on est passé comme un programme machine essorée. On est en ce moment, on est 5. Mais globalement, on était une agence de 12-15 personnes. Mais ce qui correspondait aussi à une période où la programmation était moins diluée dans des multitudes d'agences auto. Je te fais un peu de programmation, je te fais un peu de... Je quitte la boîte, je le fais à mon compte, et puis tu me cèderas mes honoraires, puis je t'en fais un fier, etc. Mais ça, c'est lié à l'organisation entrepreneuriale actuelle. C'est-à-dire que moi, j'ai connu une période faste où j'ai créé un bureau d'études avec des gens en CDI, qu'on gardait, qu'on formait. C'est un modèle qui est fini. Voilà, vive un autre modèle.
Et les profils de ceux qui travaillent ?
Alors, les profils, on n'avait même aucun architecte. Parce que quand j'ai créé la programmation en pro-développement en 86, on n'intervenait que sur du neuf. Donc, objectivement, on n'a jamais eu besoin d'avoir beaucoup d'architectes. On n'en avait pas du tout, parce qu'on est plutôt un docteur universitaire, à la base géographe. Et puis après, dès que sont apparues les problématiques de réutilisation du patrimoine, etc., donc là, on a embauché des architectes et on a toujours été... moite-moite, mais on a des profils très différents. On a des historiens de l'art, on a eu des ingénieurs. Non, on n'a jamais eu d'ingénieur. Oui, on a ici, on a une ingénieure de l'UTC de Compiègne, sociologue. Mais on a plutôt une formation chez nous très urbain, culture et. En fait, après, ça peut rejoindre une question qui m'a été posée, moi, quand je veux vraiment un architecte, mais ne le prenez pas mal, jusqu'à présent, quand je voulais le point de vue et l'expertise d'un architecte, je prenais un architecte qui faisait de la maîtrise d'œuvre. Voilà, donc c'est pour ça qu'on n'avait pas forcément besoin d'architecte, mais vous pouvez faire un test, hein, je suis connue par tous les architectes à peu près de la génération de mes plus jeunes. Parce que je travaillais avec eux et dès que j'avais une question, j'allais chercher l'architecte spécialisé, etc. J'ai travaillé beaucoup avec Philippe sur les forts, parce qu'un architecte spécialisé dans l'architecture fortifiée, vous avez Philippe Prost et vous avez Philippe Simon, il n'y en a pas 36. Quoi. Alors, je ne dis pas que des architectes à l'agence ne peuvent pas travailler. J'ai beaucoup travaillé sur les citadelles, les forts, etc. Mais à un moment donné, quand vous butez vraiment sur une question très, 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 très forte, ma stratégie était plutôt d'aller chercher des architectes qui étaient excellents dans ce domaine-là. Voilà. Donc, parce que sinon, il faut quand même se dire qu'un architecte dans une agence de programmation, il va faire vraiment des choses très généralistes. Hein. très généraliste. Si après vous avez besoin d'un architecte, par exemple un scénographe, il vaut mieux prendre un scénographe qui fait que des salles de spectacle et qui est hyper pointu dans le domaine des salles de spectacle. Donc c'est pas du tout un déni, parce que même dès qu'on s'est créé, on a travaillé avec des architectes, mais on n'en avait pas l'usage à 100% en programmation. On avait besoin de profils à chaque fois différents. On a fait un travail sur l'aéroport de Marseille avec un gars qui était un architecte d'aéroport. J'ai fait un programme d'hôpital sans architecte. Mais encore une fois, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Je vous explique pourquoi et je vous mets en garde que faire de la programmation généraliste toute la journée, c'est pas pareil que de temps en temps. Bon, j'ai fait la programmation du premier étage de la Tour Eiffel, je l'ai fait avec Philippe Simon, c'est pas pour rien. Je sais que c'est quelqu'un qui. J'ai travaillé sur la pose du Louvre avec Patrick Fortin, c'est un bonheur absolu, quoi. Ce mec, sur des bâtiments, en plus il connaît très très bien l'architecte qui avait construit. Il avait fait tout son travail là-dessus. Donc là, je suis plutôt favorable à ce qu'on voit aujourd'hui. Dans les réseaux, en fait. C'est-à-dire, je trouve qu'il vaut mieux constituer des équipes ad hoc en fonction de la question posée à chaque fois que de vouloir absolument... Enfin, aujourd'hui, moi, je ne pourrais plus faire ce que j'ai fait quand j'ai créé Pro Développement. C'est-à-dire nourrir un sociologue, un historien, un économiste, un géographe, deux urbanistes, trois architectes. C'est impossible, aujourd'hui, c'est impossible. Par contre, on va faire son marché, quoi. Et on travaille en réseau. Mais je ne sais pas. Des programmations... J'ai toujours peur qu'un architecte s'ennuie un peu. Mais bon, tous les architectes sont passés à la maison, se sont ennuyés.
C'est la première chose. Quand on a un profil très divers, mais quand il faut un architecte, on appelle un architecte extérieur. Qui connaît son travail, qui fait ça tous les jours.
Ouais. Et ça ne veut pas dire que l'autre n'est pas bon et que c'est un architecte de la sécu. C'est pas ça que je veux dire. Mais le monde fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des problématiques en programmation qui nécessitent un point de vue d'architecte, mais il faut vraiment le mec. Là on a peut-être perdu un truc parce qu'on n'a pas eu la personne la plus spécialiste des animaleries. C'est vrai que je fréquente pas tous les jours des gens spécialistes des animaleries. Si j'avais un architecte à l'agence, bon, ou bien je fais que de la programmation d'animalerie, ou bien franchement on va s'ennuyer. Une dernière question. Mais je comprends pas pourquoi on n'était pas là ce matin. Dans la série, c'est pas la peine de se faire du mal, pourquoi on n'était pas là ce matin?
C'était la moitié là.
Et le tiers de la.
Donc le but, c'est de rendre la séance suffisamment désagréable pour qu'il y en ait la moitié qui s'en aille. Voilà. Vous voyez, par rapport à ma démarche de programmation, je proposerai l'inverse quand même. Qu'on vienne tout de suite ici et que ce soit sélectif et qu'on soit tous bien. Mais bon, c'est un problème de posture.